Si dans la rubrique précédente, Philippe a souhaité placer le jeune lecteur au centre de son tableau pour en dresser un portrait en ce début du XXIe siècle, Clément et Angélique ont quant à eux décidé de leur donner la parole dans la rubrique « Ils témoignent ». Car cette fois encore, derrière ce pronom « ils » se profilent bien nos élèves. Tout d'abord, Angélique, toi qui enseignes au collège, tu t'es intéressée aux plus jeunes de nos lecteurs, ceux du collège précisément. Et comme Philippe, tu n'as pas voulu te limiter à de simples impressions.
Non, pas du tout. Je voulais faire écho à ce qui vient d'être présenté. Avant de mener mon enquête, j'avais moi aussi l'impression que mes élèves ne lisent pas comme moi, professeur, et qu'ils ne lisent pas non plus comme je lisais quand j'avais leur âge. Mais je voulais un petit peu dépasser cette première impression. Et finalement, ces différences de lecture, est-ce qu'elles sont aussi importantes que l'idée que je m'en faisais? Alors, ça a été tout simple, je les ai interrogés. Mais pour leur poser la question, je voulais vraiment avoir un avis global sur leur impression de lecture. Et j'ai créé un sondage sur Google Drive. Je remercie d'ailleurs mes collègues de l'avoir relayé auprès de leurs élèves. Et j'ai pu recueillir les réponses de 198 élèves précisément, sur le niveau 4e et 3e. Je les ai interrogés sur 14 questions. Sur les premières questions, l'outil informatique n'est pas apparu. Les questionnaires étaient anonymes, ce qui a favorisé, je pense, pour beaucoup d'élèves, la sincérité des réponses. Et je n'ai recueilli effectivement que très très peu de réponses farfelues ou clairement provocatrices. Les élèves ont vraiment joué le jeu et ont trouvé très positif qu'un enseignant qui leur impose des lectures soit également sensible à leur pratique véritable. Alors qu'en est-il de sondage? Tout d'abord, très très peu de surprises quand j'ai vu les résultats des premières questions. Pour une écrasante majorité, 169 élèves, donc parmi les 98, ces élèves lisent avant tout pour découvrir une histoire. Donc la lecture semble rester aussi une activité relativement régulière pour les deux tiers des élèves, mais associée tout de même à l'obligation scolaire ou parentale. Selon 154 d'entre eux, ceux qui se confirment quand ils citent l'œuvre la plus longue qu'ils aient lue. La moitié d'entre eux font référence à une œuvre étudiée depuis la rentrée de septembre. Une autre moitié lit pour se détendre et fait référence à de nombreuses œuvres jeunesse, plus qu'appartenant à une littérature classique, ces œuvres étant présentes au CDI pour certaines d'entre elles. D'autres œuvres semblent plutôt axées sur des histoires vraies. J'ai d'ailleurs découvert que Justin Bieber et les One Direction avaient publié une biographie. Est-ce qu'ils sont pour autant auteurs reconnus? Je vous laisserai juger. Plus sérieusement, j'ai ressenti une inquiétude quand même quand je me suis aperçue que 20% d'entre eux avouent ne pas lire du tout et 15% avouent ne jamais avoir lu de romans, c'est-à-dire pas même ceux que je leur avais amoureusement distribués. Toutefois, à partir du moment où je leur demande de se positionner sur des formes de lecture particulières, certains se découvrent finalement lecteurs. Ce qu'ils préfèrent lire sont en tête les SMS et les mails, pour 130 d'entre eux, puis les blogs et les sites perso, 109, avant les romans, 94 tout de même. 182 élèves, ont ainsi accès à Internet, mais ils ne conçoivent pas de prime abord que le temps qu'ils consacrent à cette activité soit de la lecture. Si 10 élèves, par exemple, avouaient lire plus de 3 heures par semaine au début du questionnaire, ils passent de 10 donc à 53 à être lecteurs sur Internet. Les élèves qui sont passés dans ce groupe de lecteurs réguliers sont ceux qui lisaient généralement moins d'une heure, ou alors pas du tout. Alors parmi tout ça, qu'en est-il de l'outil numérique? La moitié d'entre eux ont déjà utilisé une tablette pour lire. Toutefois, leur préférence concernant leur format de lecture est très, très contrastée. Premier groupe d'élèves, plutôt majoritaire et plutôt traditionnel. Ils évoquent le plaisir sensuel du papier, le bruit des pages, le toucher. La lecture papier est plus authentique, écrit un élève. On se plonge plus facilement dans un livre, reprend un autre. Et plus intéressant, on peut voir le nombre de pages qu'il reste à lire, ce qui sous-entend ici une pratique de lecture suivie. En bref, le support papier est le support de la lecture longue dans laquelle l'imaginaire peut se développer. À l'inverse, les pronumériques mettent en avant surtout des aspects pratiques, ludiques, la possibilité de zoomer, d'aller chercher la définition d'un mot non compris sur Internet, mais ils contrebalancent tout de même leurs préférences par des critiques concernant le manque de confort visuel, le problème d'éclairage notamment. Le point d'accord sur l'outil numérique reste la modernité. Ils trouvent que lire avec une tablette ou sur un ordinateur, c'est quand même plus stylé, c'est plus swag. L'outil semble se substituer au contenu. C'est beaucoup plus de notre génération que des livres anciens. On lit des choses qui nous intéressent. On a moins la sensation de lire. Certains échappent donc au côté institutionnel, scolaire et obligatoire de la lecture. Ils revendiquent une appropriation d'un écrit qu'ils pensent être à leur image. On rejoint, chose assez peu nouvelle, des choix adolescents, une volonté affichée de s'approprier ce qui met à distance les parents. En tout cas, tous semblent concernés. Tous les élèves ont souhaité répondre à ces questions et arrivent à en parler avec un certain recul. Il s'agit moins pour eux de préférence que de différence de lecture. Ils ne considèrent en aucun cas qu'il s'agit du même acte de lire. Et je vous livre ainsi à ce sujet le témoignage de deux professionnels, un professeur documentaliste et une libraire qui confirment cette spécialisation pratique. Marie Joumier, tout d'abord, nous rappelle qu'un lecteur reste avant tout un lecteur, quel que soit le support.
Ça me heurte un petit peu, bon, mauvais. Moi, j'ai pas du tout envie de poser un jugement comme ça, mais pour répondre à bon lecteur, c'est le lecteur qui sait trouver ce qu'il a envie de lire au moment où il a envie de lire, qui sait trouver tout seul. J'ai des élèves qui viennent ici qui ne vont lire que du magazine, par exemple. Ça me dérange pas, moi. Mais par contre, s'il a envie de lire autre chose, il peut le trouver aussi. Ils sont au collège 4 ans ou 5 ans. Et leur pratique peut évoluer dans cette période. C'est un petit peu ça, mon métier. C'est de leur faire des propositions régulièrement et de leur permettre de diversifier petit à petit leur lecture. Je crois que le lecteur, il est très libre. Il faut qu'il soit très libre. Effectivement, il y a une demande pour tout ce qui est imaginaire ou fantaisie. Je comprends cette demande-là. Comme s'échapper d'une réalité qui peut être pesante. Ils sont aussi en train de se fabriquer à l'adolescence. Donc ils ont besoin, et surtout en s'échappant, de garder quelque part les pieds sur terre et de savoir que c'est dans ce monde-là qu'ils vivent. Donc la lecture miroir, elle existe toujours beaucoup. Alors, est-ce que les TIS, on pourrait tourner la question comme ça, vont leur permettre de devenir des lecteurs? Eh bien alors là, moi, je crois pas du tout. Je pense que justement, ces élèves-là qui n'arrivent pas à lire, ils n'arrivent pas à lire le roman parce qu'ils n'ont pas d'image. Ils construisent pas l'histoire au fur et à mesure de leur lecture. Alors déjà qu'ils n'ont pas cet accès à leur imaginaire, je crois vraiment pas que le support informatique qui est complètement dématérialisé leur permette de construire ça. On peut proposer une activité qui ne ressemble pas trop à une lecture classique pour amener vers. Moi, je fais tout à fait confiance en l'art, qui va se saisir de ces nouveaux médias pour pouvoir inventer d'autres choses. Mais dans ce cas-là, je serai lectrice, là aussi, de ces nouveaux genres. S'il y a un échec scolaire dans leur tête, ils sont non lecteurs. Ça, il faut le déconstruire aussi, cette image qu'ils se sont faite d'eux-mêmes, de s'autoriser à rentrer dans son livre. Peut-être que les écrans peuvent donner un éclairage là-dessus. Ou en tout cas, la mise en page, si on pense au magazine, qui évolue énormément en suivant justement ce qui est proposé aux jeunes sur les écrans avec ces fenêtres qui s'ouvrent et donc en fait qui empêchent de soutenir une activité, une seule, pendant longtemps. Je ne suis pas du tout pessimiste, je vois des élèves qui ont envie de lire. On est un lecteur ou pas un lecteur. Si on a cette habitude-là, on restera dans la lecture.
Qu'est-ce qui décide effectivement de la lecture pour un adolescent? Et en quoi le numérique influence-t-il les pratiques? C'est Angélique Benoît, qui dirige la librairie Jean de la Lune, qui nous propose ainsi son éclairage.
Les lecteurs adolescents, généralement, sont sur tout support. C'est-à-dire que les lecteurs papier sont aussi des lecteurs de technologie et des consommateurs de technologie, jeux vidéo inclus. Connexion, discussion dans des forums de lecture, C'est très drôle aussi, pas que, mais entre autres, moi, dans les discussions que j'ai avec eux, les forums de lecture sont présents, où ils vont se donner des avis et se donner des conseils entre eux. C'est sûr que le temps de lecture papier chez certains a diminué. Après, il faut savoir que le meilleur ami de la lecture, à un moment, pour déclencher ce processus d'être lecteur, c'est l'ennui. Ça a toujours été l'ennui. Et une fois qu'on est lecteur, on ne s'ennuie plus jamais de sa vie. La lecture papier d'un livre de littérature de la page 1 à la dernière page, quel que soit le nombre de pages, c'est quelque chose qu'ils ont perdu en usage ou qu'ils n'ont pas acquis. Leur temps est vampirisé, ils ne s'ennuient plus. Le numérique, en plus, c'est quelque chose qui absorbe beaucoup. Je parle d'expérience, hein. On se dit, mince, où est parti ce temps? On se sent bien dans un livre parce qu'il répond, il nourrit. La lecture doit nourrir. Si la lecture nourrit pas, il n'y a aucun intérêt à lire. On a le droit d'être un bon lecteur qui aime que les nouvelles. Que les textes courts qu'on finit en une heure et demie, et on a notre film qui s'est déroulé sur une plage courte de temps. La liseuse peut avoir un usage intéressant. Les retours qu'on a sont quand les enfants ont des liseuses, ils veulent des livres papier aussi. C'est-à-dire qu'un livre qu'ils ont lu sur liseuse qui leur a beaucoup plu, ils vont demander qu'on leur offre l'exemplaire papier. Donc il y a bien un rapport à l'objet qui est différent. Il y a un usage sur le numérique qui n'exclut pas le livre papier. Moi, je pense que la dématérialisation pourrait servir plus à faire des tests. J'aime pas. Et si j'aime, éventuellement d'acheter. Dans les discussions qu'on a avec les lecteurs, les gens qui, à l'heure actuelle, sont les clients des librairies, ils se voient pas abandonner complètement le papier. Les adolescents, c'est pareil. Ils n'excluent pas, peut-être moins que les adultes, ce support liseuse. Pour eux, c'est pas possible parce que le livre papier, c'est un objet. Il peut être très beau, il peut être plus simple. C'est pas la même chose. J'ajouterai une chose sur les liseuses. Ce que je vois justement dans ce fameux passage d'un lecteur à la lecture complètement autonome, c'est que la liseuse est un objet de bon lecteur. Parce qu'on ne voit pas le début du livre, on ne voit pas la fin du livre. Et pour un jeune qui n'est pas lecteur, mais même un grand seconde qui n'est pas lecteur, pouvoir dire « Yes ! Je suis arrivée au bout de mon livre, il n'y a plus de page derrière, je le referme, il est lu », c'est une victoire. Donc une liseuse où il y a des centaines et des centaines de titres qui peuvent s'enchaîner à l'infini, même s'il y a toutes les fonctions multi-support, on peut rouvrir le texte, on est à la bonne page, etc. Ça doit être mais désespérant pour un non-lecteur, parce qu'il ne verra jamais le bout de sa liseuse. On voit le nombre de pages, on avance dans la lecture, on voit le marque-page déroulé, à un moment, on ferme le livre, il est fini. C'est un geste important. Et on va prendre confiance en soi dans la lecture.
Même si leur avis n'est pas univoque, qu'il s'agisse des adolescents, des professionnels, nous mettons tous en avant une nette évolution déjà très ancrée dans la pratique de la lecture, qu'il s'agisse donc du support papier ou numérique. Une spécialisation dans la position et dans la compétence de lecteur que nous adoptons par rapport au support choisi.
Après cette enquête pleine d'enseignements menée par Angélique à propos de ses élèves de collège, toi Clément, tu souhaites plutôt orienter notre attention vers leurs aînés, ceux qui poursuivent leurs études au lycée. Et j'ai bien l'impression que tu as apporté avec toi quelques statistiques un peu préoccupantes.
En effet, Serge, je crois qu'il est nécessaire de commencer par rappeler quelques faits. Selon un sondage TNS Sofres paru en 2009, le nombre de petits lecteurs progresse. Ce qu'il faut entendre par nombre de petits lecteurs, c'est les lecteurs qui ne lisent qu'entre un livre et cinq livres par an. Et ces lecteurs-là passent de 24 à 39% entre mars 81 et 2009. Tandis que le nombre de grands lecteurs, donc ceux qui lisent, qui liseraient plus de 5 livres par an, diminue quant à eux de et passe de 42 à 35%. En dehors de ces considérations statistiques, dans mon lycée, un seul élève de la classe de première L se définit comme un grand lecteur. Alors, je ne sais pas si on peut faire une généralité à partir de cette observation concrète, mais il n'empêche que ça m'a interpellé.
Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ?
Alors, selon William Marx, qui est un chercheur universitaire français, il existe le phénomène de la dévalorisation de la littérature. Il explique en effet, dans son ouvrage « L'adieu à la littérature », que beaucoup de lecteurs ont jugé que la littérature n'a plus beaucoup d'intérêt à partir du moment où elle se désintéresse du monde matériel. Cette pensée est notamment due à certains mouvements littéraires, je pense au mouvement du Parnasse, à l'art pour l'art. Et d'autre part que la littérature est dangereuse lorsqu'elle s'en soucie trop. Et cette pensée est notamment due aux deux guerres mondiales, selon William Marx. Et a notamment fait dire au philosophe Adorno que écrire de la poésie après Auschwitz est barbare. Donc voilà, la littérature est en fait prise entre ces deux feux. Et on peut aussi expliquer cette notion de dévalorisation par un certain élitisme français qui peut sembler contre-productif et qui pousserait, je pense, certains professeurs à ne pas s'adapter assez aux besoins culturels des élèves. Victoire, qui est une grande liseuse de première scientifique, l'explique ainsi.
Peut-être, je pense que souvent on dénigre la lecture qui est plus, pas populaire, mais plus commune, c'est-à-dire les romans fantastiques, tout ce qui peut être livre comique, etc. Et je pense que c'est quand même intéressant d'en lire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de lire des classiques, parce que même si on dit que ça instruit, il faut quand même avoir une lecture assez variée, et si on n'a pas, il manque quelque chose, même si c'est quelque chose de très intellectuel. Et il faut parfois se contenter de lire un livre qui est banal, enfin pas banal, mais qui n'est pas élevé.
Je me trompe peut-être, mais j'y vois une certaine forme de critique de l'élitisme en fait français.
C'est vrai.
Est-ce que c'est ça ou...
Il y a une certaine forme, pas vraiment grande critique, mais je pense qu'il faut arrêter de se dire que les personnes qui lisent uniquement des classiques sont des personnes intellectuelles et des personnes qui sont élevées dans le rang social. Non, il y a pas du tout. Si on peut se contenter de lire de temps en temps un livre pour adolescents, un petit livre d'amour, quelque chose comme ça, eh bien c'est intéressant aussi et ça permet de prendre un autre type de plaisir.
Enfin, il faut aussi tenir compte, je crois, de l'influence du milieu social dans lequel grandit l'élève. Emad, qui est un lecteur de textes très courts, voire un non-lecteur, est très souvent rebuté par les œuvres longues, présente ainsi sa vision des choses.
Est-ce que vos amis ou des membres de votre famille lisent ?
Ah non. Peut-être un ou deux membres de ma famille, c'est tout, mais pas...
D'accord. Est-ce que vous voyez une relation entre les deux ou pas ? Est-ce que pour vous, le fait que les personnes auxquelles vous pensez lisent vous empêche de lire, ou à l'inverse, le fait que beaucoup de vos amis ou de membres de votre famille ne lisent pas ?
C'est peut-être ça, ouais, aussi, le fait que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent.
D'accord.
Et alors, comment remédier à ces problèmes ? Comment s'extraire de ce déterminisme intellectuel, voire social et familial ? Finalement, Clément, comment donner ou redonner envie de lire ?
D'abord, je crois qu'il faut partir du principe de ce que je nommerais la pratique religieuse de la lecture. Alors, je tiens à rassurer les plus laïcs d'entre tous, je suis moi-même pas religieux, mais ce que j'entends par pratique religieuse de la lecture, c'est une pratique rituelle qui incite au recueillement, qui induit un isolement. Et cette pratique-là ne peut être mise en place qu'à partir du moment où l'on respecte certaines conditions matérielles. C'est ce que me disait Victoire, qui ajouta ensuite que le livre possédait même un caractère presque sacré.
Est-ce que vous attachez une importance à l'objet même du livre ?
Bien, je pense que c'est un objet qu'il faut respecter et ne pas dégrader, ne pas, je sais pas, déchirer les pages ou choses comme ça, parce que la lecture, pour moi, c'est une mémoire. C'est-à-dire que si jamais il y a un livre qui m'a marqué pendant, par exemple, une expérience douloureuse dans ma vie, quand je vais le relire, ça va me toucher, et si jamais il est abîmé, forcément, ça va me décevoir.
Ces rituels, me direz-vous, ne peuvent être mis en place qu'à condition de vivre dans un confort matériel certain. Cela dit, l'école peut aussi se substituer partiellement aux familles qui ne peuvent offrir ces conditions d'apprentissage. Lire un texte à la fin ou au début de chaque heure de cours en tant que rituel, cela ne prend que 5 minutes et permet de développer le plaisir. Et peut également permettre de mieux travailler en offrant une ouverture vers un thème proche de celui qui est étudié ou de renforcer le travail d'un objet d'étude. Enfin, je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'on ne naît pas avec un Montaigne ou un Baudelaire. Moi-même, j'ai commencé, je n'ai pas honte de l'avouer, par des Stephen King avant de lire des Maupassant et des livres Chair de poule avant ceux de Stephen King et même des oui-oui avant des Chair de poule. Je crois qu'il faut, et c'est nécessaire, désacraliser la littérature pour la rendre plus accessible à dimension humaine. Et puis, il faut également tenter d'utiliser au mieux les nouvelles technologies afin de montrer aux élèves que la littérature est un art qui est toujours en phase avec le monde dans lequel nous vivons. Après tout, quel parent ne remercierait pas le chimiste qui, pour faire prendre à son enfant un médicament efficace mais amer, lui aurait donné un goût de framboise ou de banane?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou si c'est pas le cas, est-ce que vous avez déjà envisagé de le faire, de lire sous forme numérique, des ouvrages numériques par exemple, sur tablette ou vous avez déjà expérimenté ça? Ça vous plaît plus ou pas?
Ouais, plus.
D'accord. Donc l'objet, en fait, a une incidence selon vous sur la lecture. D'accord. Qu'est-ce que vous avez lu sur tablette?
Bellamy.
Ouais. Vous possédez une tablette?
Oui, mais je l'avais lu sur mon téléphone, je l'avais acheté sur mon téléphone.
D'accord. Et le fait de lire sur votre téléphone, ça vous plaisait plus que de lire... Oui. C'est vrai?
Ouais.
Ok.
Les souris et les lettres.